Le corps pourrait incarner la servitude, je suis à la merci de mon corps, qui parfois prend les deux mots, et l'esprit, au contraire, la liberté. Ah, est-ce que vous m'entendez, oui, parce que
oui. Oui,
ça va. Je suis un peu loin du micro, je me rapproche comme ça sans arrêt, et j'ai peur que le son soit variable. Bon, donc l'esprit serait la liberté, le corps la servitude, et on peut retrouver dans ces mots d'Alain cette idée. Citation 1. L'âme est tout ce qui refuse le corps. Par exemple, ce qui refuse de fuir quand le corps tremble, ce qui refuse de frapper quand le corps s'irrite, ce qui refuse de boire quand le corps a soif, ce qui refuse de prendre quand le corps désire, ce qui refuse d'abandonner quand le corps a horreur. Alors, ce discours sonne juste. Mais, pour autant, on pourrait le contrebalancer par un autre discours, qui pourrait être tout aussi crédible, celui qui consiste, au contraire, à promouvoir le corps comme une source de plaisir. Ou, en tout cas, comme la voie nécessaire vers une quelconque forme de bonheur terrestre. Parce que, c'est bien joli de s'imaginer comme un esprit pur, détaché entièrement du corps. On pourrait là rêver à une humanité entièrement désincarnée, une pure nature spirituelle, etc. Mais à la réflexion, ce projet, ce fantasme, apparaît assez peu désirable. Il est douteux que l'homme ait véritablement envie d'être ce fantôme sans chair, semblable à ceux qu'Ulysse rencontre au chant 11 de l'Odyssée et qui se dissolvent dès qu'on essaye de les étreindre, pardon, parce que, on le sait, il y a une richesse et un bonheur de l'existence corporelle. Et puis surtout, et on y viendra tout au long de la conférence, la conception dualiste qui sépare l'esprit du corps pose un fameux problème, bien le problème de leur union. Comment un esprit peut-il, s'il est une réalité différente du corps, agir sur le corps et les produits ? Alors, je le dis tout de suite, et ce sera l'un des problèmes qui nous occuperont. À ce problème, la science offre une réponse. Elle unifie ces deux réalités entièrement au profit du corps. De nos jours, la plupart des scientifiques purs et durs, qui se disent purs et durs, apportent cette conception, le matérialisme, qui aujourd'hui s'appelle, par délicatesse, le naturalisme, et qui consiste à affirmer qu'il n'y a que des corps, que toute réalité est d'abord physique, et que dans le cas de l'homme, ce que nous percevons comme des états mentaux immatériels se laisse réduire en fait, au final, à une activité électrochimique des neurones dans le cerveau. Alors, je cite Changeux, Jean-Pierre Changeux, l'homme neuronal, citation 2, toute activité mentale est déterminée par l'ensemble des influx nerveux circulant dans des ensembles définis de cellules nerveuses. Elle n'est même que cela. Et il ajoute, histoire que les choses soient bien claires, l'homme n'a rien à faire de l'esprit, il lui suffit d'être un homme neuronal. Bon plus. Mais en même temps, tellement scientifique. Bref, les conceptions les plus radicales vont jusqu'à nier complètement la réalité des états mentaux. Et vous croyez penser, mais en fait, c'est votre corps qui pense, à travers vous malgré vous. Dans cette conception maximale, on réduit les états mentaux à des états physiques, des conceptions plus modérées gardent quand même l'idée d'un état mental, mais en réduisant à n'être qu'un épiphénomène, c'est-à-dire un petit phénomène secondaire, un phénomène passif. Dans tous les cas, de toute façon, le baiser de l'amant n'est plus qu'un bombardement de particules. Et surtout, je ne suis qu'un corps parmi les autres, soumis aux mêmes lois. Alors, une nouvelle remarque, qu'on explorera également, est-ce que cette apparente profondeur d'une telle vision du corps, qui a le vent en poupe du côté des scientifiques, est-ce que cette apparente profondeur ne viendrait pas, finalement, d'abord, de son caractère complètement contre-intuitif ? Parce que c'est pas comme ça que je le perçois d'emblée. En tout cas, elle emporte l'adhésion chez beaucoup de théoriciens, et il faudra essayer de rendre compte des raisons. Et pourtant, s'il nous arrive de nous percevoir comme des consciences pures, embarrassées par un corps, comme on l'a vu juste avant, qui serait à la limite étranger, et si la science, à l'inverse, nous affirme, statistique à l'appui, que nous ne sommes qu'un corps, qui qui serait réductible à des lois physiques, aux lois matérielles, il nous arrive au moins aussi souvent de nous vivre, nous, comme des personnes unifiées, qui seraient indissolublement des corps et des âmes, et dont les comportements, recouvrent à la fois une description matérielle, mais aussi, bien sûr, une description psychologique. Alors, certes, je n'ai pas choisi mon corps, et je reste soumis à ses forces et à ses faiblesses, mais il est tout aussi vrai de dire que je me constitue aussi une identité psychique, constituée d'habitude et de préférence à partir de mon corps. Mon corps ne m'ouvre pas à tous les possibles, mais il les constitue comme possible. Alors, pour prendre l'exemple concret, là, tout de suite, je peux envisager, par exemple, moi, de faire carrière en rugby. Déjà oublié. Mais même avec des efforts considérables, je risque de ne pas survivre au premier match. Donc, on peut dire que oui, le corps, je ne l'ai pas choisi, mais il m'ouvre quand même un certain nombre de possibles. Je dois en tenir compte, et il faut que j'en tienne compte. Donc, dans ces moments-là, nous faisons l'expérience de notre unité, le soupçon peut nous venir que l'opposition du physique et du mental est tout à fait artificielle, et qu'il s'agit, en fait, de deux aspects complémentaires de notre vie. La question est donc, peut-on dépasser le dualisme? C'est-à-dire un esprit dans un corps, et d'abord, y a-t-il des raisons pour distinguer radicalement ces deux réalités? Est-ce qu'on ne peut pas les ramener finalement l'une à l'autre? Et notamment, si on maintient quand même cette dualité, comment penser leur union? Donc notre parcours sera le suivant. Nous explorerons dans l'ordre trois hypothèses successivement. J'ai un corps. Je suis un corps. Je suis mon corps. Alors, commençons. Commençons par ce qui m'apparaît. J'ai un corps. Pour savoir ce que je suis essentiellement, profondément, je peux adopter la démarche du doute. Je vais, peu à peu, renvoyer dos à dos toutes les choses qui ne sont pas certaines me concernant mon corps, mon esprit, etc. Donc, à la manière de Descartes, je vais examiner ce que je peux estimer absolument sûr dans mon expérience pour rejeter tout ce qui pourrait recouvrer le moindre doute, pour reprendre son vocabulaire. Alors, qu'est-ce que je suis? Que m'a-t-on dit à l'école, le savoir scolaire? Je vais l'examiner. Alors, on peut évidemment douter que ce que j'ai appris à l'école concernant mon corps suffise à en rendre compte. En témoignent les oppositions entre les professeurs, les bouleversements scientifiques, etc. Ce qu'on m'a dit que j'étais en biologie, par exemple, c'est-à-dire un organisme composé de fluides et de canaux, en tout cas c'est ce que l'on a compris, diffère de ce que j'ai cru pouvoir saisir de moi en tant qu'être connaissant. Je suis un être capable d'additionner, d'appliquer des formules géométriques, parfois de faire des divisions, sinon pas de virgule. Bon. Mais, en tout cas, je ne suis pas absolument certain que tous ces discours-là convergent, et en tout cas, que ce que je connais par mon éducation permette d'avoir un véritable point de vue sur moi-même. En revanche, il me semble que je peux tirer quelques certitudes de mes sens. Alors, continuons l'expérience. On va la faire, vous pouvez la faire pour vous-même, bien sûr. Les sens, je vois, j'entends, je sens. Oui, mais ce que je vois, ce que je sens, ce que j'entends, est parfois trompeur. Je crois reconnaître au loin un ami, je le salue, mais je m'aperçois que je ne le connaissais pas. Ça arrivait tout à l'heure, à la porte, je connais quelqu'un, donc l'un d'entre vous m'a vu le saluer en véritable motivation. Bref, au moins que je change de niveau. Je crois entendre, on pourrait multiplier les exemples à l'infini, je crois entendre un chat qu'on égorge, c'est ma tante qui chante, qui fredonne. Bon. Les sens, on le sait depuis longtemps en philosophie, ne sont pas fiables. On l'a répété suffisamment. Mais, quoi qu'on pense des sens, quoi qu'on pense des illusions qu'ils prodiguent, ils semblent bien se rattacher malgré tout à un corps, quel qu'il soit. Bon, le corps, on y est. Mon corps. Ça ressemble à une certitude. J'ai un corps. Je me tiens là, sur un pupitre, devant un micro, en train de faire cette intervention. Tout ça est très vraisemblable. Tout y est, l'odeur de la salle, la goutte de sueur qui perle sur mon front, les regards qui l'examinent et qui se demandent certainement où je vais en venir. Bref, mes mains tremblantes, ma rime entre les yeux, signe de concentration. Bref, je suis bien là devant vous. Mais est-il certain que vous êtes là devant moi, que je suis bien tel que je suis? Ah, évidemment, chacun fait ses expériences. Mais moi, je ne suis pas sûr d'être véritablement là. Je pourrais vous rêver. Je pourrais rêver que j'ai notamment ces vêtements, que je suis dans cette position, que je pourrais même rêver que je suis cet être masculin d'environ 1m75. Environ. Tandis que, endormi dans mon lit, je suis une femme, 1m80. Pourquoi? Alors, vous allez me dire, mais il y a des signes. Premier signe, je me pince. Oui, sauf que vous l'avez certainement tous déjà fait, dans votre rêve, dans vos rêves, se pincer, ce qui peut apparaître une très bonne idée, n'est jamais une solution, puisque les signes de démarcation du rêve sont concordants dans le rêve. Entre autres, dans le rêve, souvent, si je suis un peu paranoïaque, je me pince, hop, je me dis, ah bon, c'est bon, j'ai mal, donc je ne rêve pas. Mais je rêve d'éprouver cette douleur. Bon, je pourrais continuer à l'infini, je pense que vous êtes tous convaincus, les signes du rêve ne sont pas assurés, donc il est possible que je ne sois pas tel que je suis. Pourquoi? Où voulais-je en venir? Eh bien, c'est qu'il est très simple. Tout ce que j'examine à propos de mon corps, tout, c'est par mon esprit que je l'examine. Ainsi, l'esprit qui se saisit lui-même est, selon Descartes, plus facile à connaître que le corps. Plus immédiat. Un exemple prosaïque, je peux me découvrir un grain de beauté en relief que mon médecin juge potentiellement dangereux, mais que je n'avais pas aperçu. L'esprit est donc plus connaissable que le monde environnant, ou que mon corps lui-même. J'y allais parce que je croyais avoir la grippe, il me découvre une suspicion de cancer. Alors à ce moment-là, je ne connaissais pas mon corps, je suis prisonnier de mon corps. Mon corps, d'un seul coup, apparaît sous un nouveau jour. Citons Descartes, donc le 3. Je fermerai maintenant les yeux, je boucherai les oreilles, je détournerai tous les sens, j'effacerai même de ma pensée toutes les images des choses corporelles, ou du moins, parce qu'à peine cela se peut-il faire, je les répudierai comme vaines et comme fausses. Et ainsi, m'entretenant seulement avec moi-même, considérant mon intérieur, je tâcherai de me rendre peu à peu plus connu et plus familier à moi-même. Je suis une chose qui pense. Donc, la vérité de mon être appartient à l'ordre de l'âme, à l'esprit, à la pensée. L'âme seule ayant cette capacité de penser, y compris mon corps. Alors après, le fait que je n'ai pas le corps que je crois avoir, le fait que même la folie ne change rien. La folie ne change rien, je pourrais l'imaginer, je ne sais pas, je pourrais être fou et me croire roi de France. Je pourrais me croire grand mathématicien, grand rugbyman, comme exemple tout à l'heure, mais c'est tout de même moi qui crois l'être. Je pourrais n'être qu'un cerveau dans une cuve. Je serai toujours cet esprit qui a un point de vue sur lui-même. Il y a donc une certitude absolue de la pensée et non pas du corps. Mais il faut aller plus loin. Il semble bien là y avoir une distinction entre deux substances. La substance spirituelle, ma pensée, la substance corporelle, ce corps que j'ai. Descartes les nomme la pensée et l'étendue. Ces substances sont distinctes parce qu'elles ne peuvent pas se concevoir l'une sans l'autre. C'est évidemment le contraire, parce qu'elles peuvent justement se concevoir l'une sans l'autre. On peut penser la pensée sans l'étendue et l'étendue sans la pensée. À ce titre, c'est l'âme et l'âme seulement qui a le privilège de fonder la valeur de l'homme. Le corps, lui, dans cette perspective, est réduit à la matérialité de son extension, c'est-à-dire il se donne à voir. Il ne peut parler que lorsqu'il est sollicité par la conscience. On peut expliquer les diverses fonctions corporelles, la digestion, la locomotion, la respiration, etc., la mémoire du corps, mais on peut l'expliquer simplement par automatisme. C'est son cas. Je désire que vous considériez que ces fonctions suivent toutes naturellement en cette machine de la seule disposition de ces organes, ni plus ni moins que font les mouvements d'une horloge ou autre automate, de celle de ses contrepoids et de ses roues. Alors, vous allez me dire que j'exagère ou que Descartes exagère. Non, absolument pas. Je respire, je ne sais pas comment je respire. Si d'un coup j'ai un problème cardiaque, je ne sais pas comment ça fonctionne. J'aurais beau dire à mon cœur, ça ne change rien. Il y a, dans cet élève bourré d'organes, il y a des tas de choses qui fonctionnent en moi, sans moi. Je n'ai aucune puissance là-dessus. D'un seul coup, je découvre une faiblesse. Je n'arrive plus à marcher. Hop, mon corps prend les commandes. Je ne sais d'ailleurs pas comment je marche. Si j'ai un accident et qu'une partie de mon cerveau est touchée, et bien d'un seul coup, je peux perdre l'usage de la motricité. Je ne sais pas quelle différence cela fait lorsque je peux commander à mon corps la marche et lorsque je ne la commande pas. Il y a une forme d'autonomie du corps. Donc, d'une façon méthodique, on pourrait dire que rien n'indique que l'animal ne soit autre chose qu'un tel corps. Quelle différence y a-t-il entre moi et un animal? Beaucoup, j'espère. Mais, à moins que vous considériez que je sois un animal, on va y venir. Il y a d'abord, à part une différence évidemment de capitalité, il y a d'abord ce problème que on pourrait dénier à la pensée à l'animal sans rien lui enlever. L'animal peut se mouvoir par réflexe, par instinct, par habitude, son corps seul est aux commandes. Alors, Descartes l'illustre par une théorie de l'animal-machine. Le cas du perroquet, par exemple, est un contre-exemple, hein, puisqu'il ne peut qu'imiter le son humain, alors qu'à l'inverse, le muet, qui ne dispose pas de la parole, peut inventer des signes. Donc le muet montre qu'il a une pensée, le perroquet agit par automatisme. Ce n'est pas le langage qui fait simplement, ou si, c'est le langage qui fait la différence entre l'homme et l'animal, mais en ceci que l'homme peut se servir du langage pour signifier quelque chose qui n'est pas directement en situation. Le chien aboie, il fait ouf, bon, mais c'est toujours par rapport à un stimuli immédiat. On lui prend son os, s'il n'est pas content, il fait ouf. Mais le chien est incapable, a priori, de raconter des souvenirs de vacances, ou d'anticiper son voyage aux Caraïbes. Bon. On peut imaginer que, ou alors, bien pire, oui, voilà, parce que là, le voyage aux Caraïbes, je vais dire, c'est un peu énorme, mais, bon, je peux me relever la nuit parce que je suis rongé par les doutes existentiels. Mon chien, lui, a priori, ne va pas être ravagé par de telles angoisses. Déjà, parce que j'ai pas de chien, mais quand bien même j'en aurai un, a priori, il n'y a pas derrière une considération de lui-même, comme un tout, comme un sujet. Ainsi, citation 5, écrit Descartes dans le discours 4, l'âme par laquelle je suis ce que je suis est entièrement distincte du corps, et même qu'elle est plus aisée à comparaître que lui, et qu'encore qu'il ne fût point, elle ne laisserait pas d'être tout ce qu'elle est. Bon, langage 17e. Le corps agit par réflexe, par automatisme pur, tandis que ce qui caractérise la pensée, c'est le recul qu'elle permet. L'homme est doué d'une réflexivité, réflexif au sens d'un miroir qui réfléchit, qui renvoie un reflet. Bon, je vais faire une mauvaise blague. Ah, du coup, vous la voulez. Et donc, comme je dis, vous allez dire, bon, eh ben, non, c'était mon père qui a fait cette boutade qui doit certainement même pas être lui. Parfois, le miroir ferait mieux de réfléchir à deux fois avant d'envoyer ton reflet. C'est un geste très sympa. Mais, surtout, c'est les doubles sens de réflexivité. Ici, ce qui nous intéresse, c'est la réflexivité en tant que je peux me percevoir moi-même. Et c'est ce qu'on dénie aux chiens ou à quelconque animal, puisqu'on a, nous, la pensée. Bon, il y a donc une distance entre la réaction réflexe qu'impose une situation à l'animal et le comportement que je peux décider d'adopter. Je peux, mon corps, par exemple, manifester la faim, gargouiller dans le ventre, tiraillement, mais je peux différer cette sollicitation du corps pour des raisons personnelles. Diète pour me mettre en maillot de bain, l'été, attendre l'heure du repas pour manger avec mes enfants. Généralement, quand je rentre de cours, je me précipite sur le saucisson, et du coup, j'ai plus faim, je ne mange pas. Bon. Là, quand je le fais, je me comporte comme animal. Si je suis capable de prendre du recul, d'anticiper, je fais place à la pensée. En gros, l'animal qui a faim cherche à manger, sans recul, il répond à une sollicitation, une situation pour laquelle il est programmé, tandis que moi, je peux me maîtriser. Je peux maîtriser mon corps, je peux maîtriser ma faim, et je peux anticiper les conséquences de ce que je fais. Je suis donc une pensée de moi-même. Mais, si nous avons examiné maintenant ce qu'est la pensée, il nous reste un vrai problème, l'identité du moi. Comment fonder cette chose qui pense? Descartes nous dit « je suis une chose qui pense » dans la citation de Paul. Mais qu'est-ce que c'est que cette chose? Quelle est l'unité de ma conscience, de mes pensées? Est-ce qu'il ne faudrait pas l'ancrer dans un corps, situer cette unité? Je ne suis pas qu'une... Oula. Vous remarquerez, j'ai pris les bouquins pour faire plus sérieux alors que toutes les citations figurent ici. Mais j'y reviendrai. Mais cette unité ne passe-t-elle pas nécessairement par le corps? Et surtout, et ça va être l'essentiel de cette première partie qui parle un peu, surtout, est-ce que le corps n'entraîne pas, malgré moi, des pensées? se pose ainsi un nouveau problème, celui de l'union de l'âme et du corps, où la pensée est détendue. Parce que, comment l'âme et le corps, si j'admets que ce sont deux substances différentes et distinctes, comment ces deux substances peuvent-elles, malgré tout, entrer en communication et être étroitement liées et agir l'une sur l'autre? Parce que tout indique qu'elles agissent l'une sur l'autre. Par ma pensée, je peux évidemment agir sur mon corps. Bon, je prenais le cas du stress tout à l'heure. Et si je suis stressé, le stress se traduit par des accélérations cardiaques, des suées, des tremblements. Je peux décider d'agir et d'inverser ces symptômes. J'inspire largement, je pense à des choses positives, je vais craquer les doigts, ça je sais pas faire, je peux me concentrer sur mon objectif, etc. Et je retrouve mon calme. À l'inverse, un état maladif, des crampes à l'estomac peuvent m'empêcher de penser correctement et me détourner de ce que je voulais faire. Ou dire, hein, c'est dur de penser quand, à coup, on est déchiré par une crampe à l'estomac. On ne pense pas comme on pense normalement. Donc, se pose le problème des passions. Des passions au sens où le corps devient actif, et c'est l'esprit qui est, à ce moment-là, passif. C'est-à-dire, la passion, c'est le moment où l'âme perd le contrôle. Le corps prend le contrôle de mon être et le dépossède d'une partie de mon jugement ou de ma capacité de me penser par moi-même. C'est la raison pour laquelle Descartes considère que l'âme n'est pas dans le corps comme un pilote dans son navire. Elle est connue et elle est courte, je l'ai pas mis. Une union entre les deux substances est à envisager. Par exemple, la passion. Ça peut être aussi la passion dévorante, mais ça reste la même chose. C'est le moment où mon corps prend le contrôle. Je surprends ma femme dans les bras d'un autre. Mon corps semble d'un seul coup s'animer, et de lui-même, il saisit l'extincteur posé à côté de moi pour le projeter sur la main de ma femme, ou sur ma femme, si elle sert à cause. Bon. Ma passion dévorante prend évidemment le dessus sur ma raison, et mon corps semble tout à coup me faire perdre le contrôle. Et oui, j'aime ma femme, je ne veux pas du tout qu'un extincteur la rencontre. Et je n'ai pas non plus envie qu'il rencontre l'amant de ma femme, parce que je ne veux pas faire de la prison à cause de lui. Bon. Mais le moment où mon corps me saisit, où la passion me dévore, c'est le moment où je sens une impuissance de mon esprit. Alors, cette union, donc, de l'âme et du corps est constatable. On la constate à chaque instant, mais elle est difficile à concevoir ou à justifier. Dans une lettre à Élisabeth du 28 juin 1643, et c'est votre citation 6, Descartes fait l'observation suivante. C'est en usant seulement de la vie et des conversations ordinaires et en s'abstenant de méditer aux choses qui exercent l'imagination qu'on apprend à concevoir l'union de l'âme et du corps. Alors c'est un peu facile, c'est même une justification un peu curieuse. Que nous dit Descartes ici? C'est en arrêtant de méditer et donc de philosopher, en se laissant vivre, qu'on constate cette union et qu'on la comprend. Mais arrêter de penser au problème semble rendre plus difficile sa solution. Parce que le problème, il est double. Si je constate que l'union, elle est là, suis-je toujours maître des pensées, ou est-ce que le corps peut prendre le dessus? Donc, finalement, si le corps peut prendre le dessus, ça veut dire qu'il est possible que je me définisse, parfois, par ce corps. Premier problème. Deuxième problème, toujours le même, comment imaginer que ces deux substances hétérogènes, qui sont indépendantes, puissent entrer en communication? Alors, quelques années plus tard, Descartes revient sur cette difficulté dans une lettre à Arnaud. Donc, 7, pardon. Descartes, donc c'est 7. Que l'esprit, qui est incorporel, puisse faire mouvoir le corps, il n'y a ni raisonnement, ni comparaison tirée des autres choses qui ne puisse apprendre. Mais néanmoins, nous n'en pouvons douter, puisque les expériences trop certaines et trop évidentes nous le font connaître tous les jours manifestement. Et il faut bien prendre garde que tout cela est une des choses qui nous sont connues par elles-mêmes et que nous obscurcissons toutes les fois que nous les voulons expliquer par d'autres. Bon. Donc, encore une fois, cette union, 3 ans après, Descartes n'a pas changé d'avis. Cette union est constatable, mais elle n'est pas compréhensible. Il faut l'admettre. Mais rationnellement, quelque chose nous empêche d'en rendre compte. Bon, concernant la première difficulté, il y a quand même une solution. Il semble possible, selon Descartes, en droit, c'est-à-dire par la volonté, d'opposer une passion du corps à une autre passion du corps. Donc, par ma volonté, je peux, voilà, d'un seul coup me calmer, je peux, faire agir mon corps contre mon corps. Donc, l'esprit peut toujours, plus ou moins, rester le maître. Hein, et agir pour servir au mieux mon libre arbitre. Et donc, par la générosité, qui est la plus grande des vertus selon Descartes, on peut témoigner du pouvoir de la volonté sur le corps. On peut l'admettre. D'accord. Il n'y a pas de contradiction, il y a simplement là une prise de parti. Mais l'union, dans sa possibilité même, reste quand même problématique. Et là, Descartes lui-même s'embrouille. Explicitité, on trouve une contradiction chez Descartes. Bon, ce n'est pas tout à fait exclusif. Mais essayons. Vous allez dire si Descartes s'embrouille ou pas. Dans l'article 30 des Passions, il nous dit, citation, l'âme est véritablement jointe à tout le corps. On ne peut pas proprement dire qu'elle soit en quelqu'une de ses parties à l'exclusion des autres. À cause qu'il est un et en quelque façon indivisible. À cause qu'elle est d'une nature qui n'a aucun rapport à l'étendue. Aucun. Mais alors, comment peut-il ajouter, dans l'article suivant, le 31, comme il l'avait déjà fait d'ailleurs dans les principes, il est besoin aussi de savoir que, bien que l'âme soit jointe à tout le corps, comme s'il vient de dire, il y a néanmoins en lui quelques parties en laquelle elle exerce ses fonctions plus particulièrement qu'en toutes les autres. Voilà, c'est une contradiction manifeste. Descartes, pour répondre à des préoccupations médicales, localise maintenant l'endroit du corps où se fait la rencontre. Vous savez sûrement la glande pinéale, c'est pas là. Mais la question n'est pas là. On le sait, on lui a reproché. La question n'est pas de savoir où il pourrait y avoir une rencontre entre l'âme et le corps. La question est comment deux substances totalement différentes peuvent agir l'une sur l'autre. Donc, Descartes, au lieu de distinguer deux ordres de recherche, la métaphysique, l'esprit, etc., et la science, pure et dure, et bien, il les juxtapose et il localise l'âme dans l'espace. Alors, après, on peut prendre les choses d'une double façon. Soit il élève la science à l'ontologie, c'est-à-dire à l'être, ou il abaisse l'ontologie au niveau de la science. Bon, après, j'arrête pour les termes techniques. Mais en tout cas, devant l'insatisfaction du dualisme, Descartes est ainsi conduit à ne plus se poser la question, mais à se laisser vivre. Car l'union s'expérimente, mais ne se comprend pas. C'est quand même un peu décevant. Alors, devant cet écueil, beaucoup de philosophes du XVIIe vont proposer leur solution. Elles ne semblent pas d'emblée beaucoup plus excitantes. On a un Leibniz qui dit « Pour répondre au problème de l'union de l'âme et du corps, on peut supposer un dieu horloger. » C'est-à-dire que le monde, finalement, est prédéterminé et Dieu a fait en sorte que tout cela fonctionne ensemble. D'accord, pourquoi pas. C'est très métaphysique, mais pourquoi pas. On a un Malebranche qui dit « À chaque fois que vous faites un souhait qui engage votre corps, c'est comme si vous demandiez implicitement à Dieu d'intervenir pour vous et de faire la jonction. Je décide de lever le bras. » C'est comme une prière adressée au Seigneur pour qu'il me fasse lever le bras. Si j'avais terminé là-dessus, vous seriez un peu déçus. Et enfin, il y a la solution spinoziste qui consiste à dire, alors, c'est à la fois la plus claire et la plus incompréhensible. L'esprit et le corps, c'est la même chose. Sous deux aspects différents. Mon esprit et mon corps, c'est la même chose. Alors attention, c'est pas matérialiste, ça veut pas dire que mon esprit est mon corps, c'est tout aussi bien dire que mon corps est mon esprit. Sur le coup, ça paraît clair, mais quand on y réfléchit, c'est vrai. Pardon, prise de parti, mais comme n'est pas encore la parole, je me permets. Donc, on est face à un écueil terrible. On a des substances dont on ne peut pas expliquer la jonction. Ce qui va ouvrir la porte à une toute nouvelle conception du corps qui va commencer à émerger, justement, en réponse. Et donc, cette perspective terrible qui pourrait faire que je suis un corps, et seulement ça. Pourquoi ? Tout simplement parce que tant que le corps et l'esprit sont connus comme deux substances opposées, que leur union reste sans solution, eh bien, on a un problème. On a vu que Descartes cherchait à résoudre ce problème par la glande pinéale, on a vu qu'il avait du mal. Et on peut surtout voir que par cette solution, il ne va qu'alimenter la polémique. Alors face à cet écueil, on peut vouloir faire disparaître le dualisme et dire non, tout cela ne peut pas correspondre à une réalité, mais faire disparaître le dualisme, donc non plus l'esprit et le corps, ça laisse que deux choix. Deux solutions. Tout donner à l'esprit ou tout donner au corps. la première solution est d'emblée problématique. C'est lourd, on se glisse. Si tout ce qui existe est de nature spirituelle, ce livre est de nature spirituelle, mon corps est de nature spirituelle, bien, si tout ce qui existe est de nature spirituelle, tout semble, tout pourrait venir de la conscience. Et l'hypothèse, on peut dire, est lourdement grévée de métaphysique. Si je vais avoir du mal à me faire avaler, cette table, c'est l'esprit. Alors la deuxième solution, en revanche, va vous sembler ça, évidemment beaucoup plus claire. Ça consiste, en tout cas moins paradoxal, ça consiste à dire que, au contraire, tout se réduit à la matière. Parce que finalement, quand on y pense, rien ne justifie d'attacher au corps qui est immédiatement connu, je le connais mon corps, et dont on fait à chaque instant l'expérience, une âme dont la nature est, elle, inconnaissable. Alors, en renversant le problème, on peut au contraire témoigner l'existence du corps et ne faire de l'âme qu'une modification du corps, qu'on appelle réduire l'âme au cerveau. Alors, au moins à titre de méthode scientifique, il semble plus adéquat de ne garder dans l'homme que ce qui nous apparaît avec certitude. Et ça semble être le corps. Sur lui, on peut agir, on peut expérimenter. Alors, peut-on, d'ailleurs, en observant simplement le développement d'un organisme, constater que la pensée y apparaît comme un simple prolongement de la matière? Eh bien, par un texte ironique, et que je vous ai mis pas tout à fait en intégralité, Diderot va s'amuser à le montrer. Je me permets de le lire. Il y a un moment que j'ai un peu sauté, je vous expliquerai. Vous allez voir que c'est très convaincant, c'est ça qui est terrifiant avec le matérialisme. Voyez-vous cet œuf? C'est avec cela qu'on renverse toutes les écoles de théologie et tous les temples de la terre. Qu'est-ce que cet œuf? Une masse insensible, avant que le germe y ait introduit. Et après que le germe y ait introduit, qu'est-ce encore? Une masse insensible, car ce germe n'est lui-même qu'un fluide inerte et grossier. Comment cette masse passera-t-elle à une autre organisation, à la sensibilité à la vie? Par la chaleur. Qui produira la chaleur? Le mouvement, etc., etc. Alors, après, il y a une longue description du poussin qui est en train de naître. Vous voyez bien que le germe va d'un seul coup avoir des poils, des plumes, etc. Et finalement, des automatismes, et on aura un poussin qui va apparaître dans l'œuf. Suite. Prétendez-vous, avec Descartes, que c'est une pure machine imitative? Mais les petits-enfants se moqueront de vous, et les philosophes vous répliqueront que, si c'est là une machine, le poussin, vous en êtes une autre. Si vous avouez qu'entre l'animal et vous, il n'y a de différence que dans l'organisation, vous montrerez du sens et de la raison. Vous serez de bonne foi. Mais on en conclura contre vous qu'avec une matière inerte, disposée d'une certaine manière, imprégnée d'une autre matière inerte, de la chaleur et du mouvement, on obtient la sensibilité, de la vie, de la mémoire, de la conscience, des passions, de la pensée. Il ne vous reste qu'un de ces deux parties à prendre. C'est d'imaginer, dans la masse inerte de l'œuf, un élément caché qui en attendait le développement pour manifester sa présence, ou de supposer que cet élément imperceptible s'y est situé à travers la coque dans un instant déterminé du développement. Mais qu'est-ce que cet élément? Occupait-il de l'espace ou n'en occupait-il point? Comment est-il venu? Où s'est-il échappé sans se mouvoir? Homogène, il était matériel, hétérogène, on ne conçoit ni son inertie avant son développement, ni son énergie dans l'animal développé. Écoutez-vous et vous aurez pitié de vous-même. Il n'est pas temps. Hein. Vous sentirez que, pour ne pas admettre une proposition simple qui explique tout, la sensibilité, propriété générale de la matière ou produit d'organisation, vous renoncez au sens commun et vous vous précipitez dans un abîme de mystère, de contradiction et d'absurdité. Donc, un œuf. Comment la vie apparaît dans l'œuf, comment la pensée apparaîtra dans tout ça? Simplement par une modification organique. C'est la matière. On la chauffe, il y a un poussin, on la chauffe pas. La poule ne couvre pas l'œuf. Là, c'est une autre organisation où il n'y a pas de pensée et où il n'y a pas de vie. Donc la vie, qu'est-ce que c'est? C'est une certaine complexification de la matière. Une certaine organisation. Et la pensée, qu'est-ce que c'est? C'est simplement aussi une certaine organisation de la matière. C'est terrifiant. Mais si à l'inverse, bon, vous avez compris, c'est, mais si à l'inverse, je dis non, la pensée est irréductible à la matière, alors il vient d'où? Elle vient d'où cette pensée? Elle est introduite dans l'œuf? Elle était là en puissance? Ça ne veut rien dire. Pardon, je me mets toujours du point de vue du philosophe que je situe. Bien. On est ennuyé, je suis en train de vous dire, vous n'avez pas de pensée. Vous êtes des corps. Et vous êtes de mauvaise foi si vous pensez le contraire. ce que dit Diderot. En tout cas, une nouvelle conception de l'homme et du corps se dessine. La laiterie va, sous couvert de prolonger les cartes, c'est un petit malin, il va faire semblant de prolonger les cartes, mais il va dire rigoureusement au contraire. Il va faire semblant de s'intéresser surtout, et en fait exclusivement, aux animaux-machines, et il va inverser le raisonnement et proposer l'affirmation d'un homme-machine. J'en ai pas ce micro, un homme-machine, rien que le mot est terrifiant. La pensée n'est rien d'autre qu'une conséquence et un produit de l'organisation complexe de cette machine, qu'est le corps. Voilà ce que nous dit la maîtrise. Il n'y a donc dans tout l'univers qu'une seule substance, la matière. D'où la conviction que, citation 10, l'âme n'est qu'un vain terme dont on n'a point idée et dont un bon esprit ne doit se servir que pour nommer la partie qui pense en nous. Selon la maîtrise, je pique trop fort peut-être. Comment ça va? Je me découvre des dents petits comme ça, un peu excités en faisant des tonnes. Ça fait un peu politique. Bon. Selon la maîtrise, la matière, alors ça va être le plus important. La matière est animée d'un principe immanent. Il est obligé de supposer, on va voir pourquoi, la faculté de sentir. Et il est nécessaire de rejeter complètement la notion d'âme. Alors, continuons ce texte très rapidement. Puisque toutes les facultés de l'âme dépendent tellement de la propre organisation du cerveau et de tout le corps qu'elles ne sont visiblement que cette organisation même, voilà une machine bien éclairée. Car enfin, quand l'homme seul aurait reçu en partage la loi naturelle, en serait-il moins une machine? Des roues, quelques ressorts de plus que dans les animaux les plus parfaits? Le cerveau, proportionnellement plus proche du cœur, et recevant aussi plus de sang? La même raison donnée, que sais-je enfin? Des causes inconnues produiraient toujours cette conscience délicate, si facile à blesser, ces remords qui ne sont pas plus étrangers à la matière que la pensée. L'organisation suffirait-elle donc à tout? Oui, puisque la pensée se développe visiblement avec les organes. Pourquoi la matière dont ils sont faits ne sentirait-elle pas aussi? Ne n'importe quoi. Pourquoi la matière dont ils sont faits ne serait-elle pas aussi susceptible de remords quand une fois elle a acquis avec le temps la faculté de sentir? La matière peut être prise de remords, puisque la pensée n'est qu'une complexification de la matière. Vertigineux. Donc pour lui, pour la maîtrise, le terme d'âme désigne seulement l'organe qui nous permet de penser, c'est-à-dire le cerveau, qui doit à son tour être conçu comme étendu et matériel. Alors dans un tel cadre, toutes les fonctions qu'on attribuait traditionnellement à l'âme sont conçues comme le résultat de certains processus physiques qui se passent dans un substrat matériel, des fibres, avec une organisation spécifique. Par conséquent, les différentes capacités des êtres vivants ne sont pas expliquées par une différence profonde, ontologique, mais par une différence physique. La diversité entre les êtres dépend seulement de la complexité de leur organisation. Il n'y a donc plus de différence essentielle entre les hommes et les animaux. Texte très rigolo, texte 11. En général, la forme et la composition du cerveau, des quadrupèdes, pardon, est à peu près la même que dans l'homme. Même figure, même disposition partout. Avec cette différence essentielle que l'homme est de tous les animaux, celui qui a le plus de cerveau et le cerveau le plus tortueux en raison de la masse de son corps. Ensuite, le singe, le castor, l'éléphant, le chien, le renard, le chat, etc. Voilà des animaux qui ressemblent le plus à l'homme, car on remarque chez eux la même analogie graduée par rapport au corps calleux. Plusieurs remarques. Dont une de détail, mais qui a son importance. Pourquoi le castor en deuxième position, juste après le singe et devant l'éléphant? Alors, ça conduit apparemment cette théorie à des classifications complètement arbitraires, et évoquant l'encyclopédie chinoise de Borges, parce que je vous en racontais une bien bonne sur les castors, juste comme ça, entre nous, des scientifiques malins ont voulu voir jusqu'où le castor avait conscience de son travail. C'est vrai, parce que j'ai pas la référence en tête, mais je vous garantis que c'est lu dans Science ou un truc très sérieux. Ils ont essayé de faire une véritable expérience, et ils ont, alors, parce qu'on a vu que les maisons des castors sont extrêmement complexes. Alors, on pourrait penser que ces petits êtres sont hyper intelligents. Il y a toute une entrée comme ça, secrète sous l'eau, avec un vestibule, posé sur le dos, etc. Il y a vraiment une entrée complètement secrète que les animaux ne peuvent pas trouver. On a quelque chose d'extrêmement complexe, une division du travail incroyable, les castors se divisent pour aller couper les arbres, pour aller mettre les branchages, bon bref. Alors on s'est dit, tout ça pourrait témoigner d'intelligence. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on fait ces coquins de scientifiques? On a pris un haut-parleur, et on a pris aussi des branchages. Et on a diffusé à travers le haut-parleur un bruit d'eau. Qu'on fait ces castors, évidemment. Un haut-parleur, non, c'est vraiment très intelligent. Non. Une maison, comment on appelle ça? Une hutte, au-dessus du haut-parleur. Preuve qu'il n'avait absolument aucune conscience de ce qu'il faisait. Bon. Et cet animal-là serait juste en dessous de nous? C'est quand même un peu chaud. En tout cas, deuxième remarque, la laiterie se présente lui-même comme un cartésien cohérent. C'est-à-dire un cartésien qui tire et assume jusqu'au bout les conséquences du mécanisme de Descartes. Et en bon matérialiste, il élimine l'âme matérielle, qui est une hypothèse sans fondement, une sorte de résidu. Mais, bien sûr, en le faisant, il s'oppose complètement aux véritables enjeux et aux thèses du cartésianisme. Troisième remarque, la principale, la laiterie résume très bien, par là, les débuts du matérialisme moderne dans la science, qui va apparaître alors et qui continue d'alimenter, enfin, qui apparaît alors et qui alimente notre vision du corps et de l'homme dans les sciences aujourd'hui. Alors, bon, faut que je saute un petit morceau, c'est dommage, mais je n'aurai pas le temps de tout aborder, je vois que je suis un peu lourd. Mais j'ai quand même envie de faire un petit sort à changer. Et la façon dont aujourd'hui en science, on conçoit, messieurs, dames, votre cerveau. Bon. Donc, au 19e siècle, on invente la phrénologie, et on pense qu'en étudiant simplement le cerveau, on est capable de localiser les fonctions humaines, et notamment de connaître votre personnalité à partir des formes cérébrales. Mais c'est surtout au XXe siècle, avec les neurosciences, que se développe l'hypothèse matérialiste, qu'on va publiquement rebaptiser naturalisme. Et que va nous dire, du coup, Jean-Pierre Changeux, notamment, qui en est l'un des flambeaux. Il va dire dans L'homme neuronal que le psychisme, finalement, c'est de la biologie. La masse gélatineuse du cerveau est formée de dizaines de milliards de cellules nerveuses, des neurones, qui établissent entre elles des quantités énormes de connexions qu'on appelle les synapses. Ces neurones véhiculent des impulsions électriques et des substances chimiques, des neurotransmetteurs. Je fais exprès de mettre des termes techniques parce que c'est tout de suite plus sérieux. Mais vous allez voir qu'en fait, sous le verbiage, il n'y a pas grand-chose. L'encéphale de l'homme se présente ainsi comme une gigantesque et vertigineuse toile d'araignée neuronale dans laquelle se propagent des myriades d'impulsions électriques. Donc on peut entièrement résumer toute la pensée, selon Changeux, aux propriétés physico-chimiques. On pourrait connaître des comportements précis, expliquer comment marche le cerveau, quand j'éprouve une douleur, quand je connais l'extase, etc., par les régions qui s'illuminent, en quelque sorte. Mais en dépit de la fascination qu'une telle description suscite, les questions avancent, les mêmes, et même pire qu'avant. Peut-on réellement réduire nos comportements à l'organisation des neurones et à leurs synapses? On peut identifier évidemment une sensation à un état neurologique. Mais est-ce qu'on rend vraiment compte, par exemple, du plaisir en tant qu'expérience? Le problème devient évident. Et il a finalement été d'abord soulevé par la maîtrise. La maîtrise a montré le problème sans s'en apercevoir, en supposant une capacité de sentir attachée à la matière. Mais si cette capacité se retrouve associée à la matière vivante, il est difficile, par exemple, de l'attribuer à la matière minérale. Il est difficile de supposer, prenons un exemple, mais c'est vraiment ça, qu'une pierre a mal lorsque je tape dedans avec mon pied. Ou même, pour le végétal, que l'herbe souffre, que je lui marche dessus. Ou alors je peux l'admettre, mais alors au prix d'une culpabilité épouvantable. Est-ce que le goudron crie quand ma voiture roule dessus? La possibilité même d'éprouver quelque chose, de se sentir, de me sentir, semble attachée à l'homme et à l'animal. Mais bien sûr, aux seules créatures capables de penser. Comment même imaginer que la sensation est une qualité inhérente à la matière? Comment penser? Soit on l'attribue à tous, mais d'une façon minimale, ou on l'attribue à personne. Ou alors, on renouvelle le problème. Donc, en gros, pour simplifier, que la pensée soit liée au cerveau, évidemment, imaginez que sans cerveau on a un peu de mal à penser, ne permet pas immédiatement de réduire le cerveau à la pensée. Personne donne un exemple extrêmement éclairant, celui du manteau et du clou. Il y a un manteau posé sur un clou. Le clou dessine vaguement la forme du porte-manteau. Vous enlevez le clou, le manteau se tombe. Mais ça ne veut pas dire que le manteau a un quelconque rapport direct avec le clou, ou que le manteau se réduit au clou. Le cerveau, vous l'enlevez, la pensée tombe. Mais ça ne veut pas dire que la pensée est l'équivalent du cerveau. En tout cas, c'est ce que je vais essayer de vous montrer dans cette troisième partie. Je suis mon corps. La pensée, on va devoir faire un détour par la vie. La pensée ne connaît pas la vie en la pensant, rationnellement, en biologie par exemple, mais finalement, en la vivant. C'est ce que va nous dire Michel André, un phénoménologue. Connaître la vie, c'est le fait de la vie et d'elle seule. Selon Michel André, il y a deux modes fondamentaux d'existence, celui du monde, auquel répond la science, et celui de la vie. Alors, aux yeux du sens commun, comme on l'a vu, le corps, c'est ça, c'est un objet dans le monde, plus ou moins semblable aux autres objets. Même pour Descartes, le corps, c'était ça. C'était d'abord un objet. Il y a une pensée, en plus. Mais le corps est un objet. C'est ce qu'on pense en général. Le corps réel, concret, est un corps sensible. À ce titre, on pourrait déjà penser qu'il échappe aux lois physiques. Pourquoi ? Parce que, en un sens, tous les corps sont des corps sensibles. Mais sensible, qu'est-ce que ça veut dire ? Et c'est ça qu'on n'a pas dit. Parce que on fait toujours, comment dire, l'amalgame entre les deux sens de sensible. Les corps sont des sensibles parce qu'ils ont des couleurs, des odeurs, des saveurs. Ils sont sonores. Ils peuvent l'être si nous les frappons. Ils présentent des propriétés tactiles. C'est par l'ensemble de ces propriétés sensibles que, depuis toujours, les hommes définissent les corps de l'univers. Chacun des corps n'est qu'un groupe de qualités sensibles qui détermine entièrement notre comportement à leur égard. Ça fait d'eux des objets utiles, dangereux, agréables, qui sont donnés à nos sens. Mais sensibles pour qui ? Le livre n'est pas sensible. Le livre a des qualités sensibles pour un être capable de sentir. Et c'est là que la science joue sur les mots. Le mot sensible a deux sens qu'on a tendance à confondre. Un corps peut être dit sensible dans la mesure où il peut être senti, mais un corps peut aussi être dit sensible dans la mesure où il est capable de sentir. Dans le deuxième cas, un objet du monde inanimé ne peut pas être dit sensible. Il n'y aurait plus d'être vivant pour les éprouver, il n'y aurait pas de corps sensible, il n'y aurait pas de corps rouge, il n'y aurait pas d'odeur. C'est que le rouge, c'est simplement la façon dont vous percevez ce corps. La réfraction de lumière sur la rétine, etc. L'interprétation qu'en donne la pensée. Mais, pour qu'un corps soit sensible, il faut passer par un être sentant. Alors, là on a sauté une étape. Si on essaie de réduire quand même le corps à des propriétés sensibles, à la structure biologique des organismes, ça c'est la vision du corps par la science. Qu'est-ce qu'on a ? On a un corps-objet. Un corps-objet. Mon corps est un objet, parmi les autres objets. La vie, ma vie, ne s'appartient plus. Elle n'est plus rien d'autonome, qui en soit ses raisons et son fondement. La vie, finalement, est le fait d'une réalité étrangère, une réalité aveugle, et qui ne sent rien, qui ne se sent pas lui-même, qui ne pense pas, qui n'a aucun rapport avec la vie. Le corps brut, dans l'ombre. Encore une fois, le baiser qui échange des amants n'est alors qu'un bombardement de particules microphysiques. De toute façon, c'est presque romantique. En tout cas, c'est ce monde dont la vie s'est retirée, ce monde dépouillé de toute qualité sensible, étranger à toute impression, qu'on va essayer de comprendre. Ça, suite à l'affaire Galilée, en tout cas, bon, Michel Henry en rajoute un peu là-dessus, mais pour lui, tout vient de Galilée. Galilée est celui qui va d'un seul coup, il a raison dans un sens, géométriser entièrement le monde, pour nous débarrasser un petit peu d'une fausse science, d'origine aristotélicienne. Oui, d'accord. Donc, en faisant ça, on va géométriser la totalité du monde, on va réduire le monde aux mathématiques, à l'expérimental. Bien. D'accord. Ce qui fera dire à Pascal, et vous allez voir comme c'est important, le silence éternel de ces espaces infinis m'effraie. Voilà ce qui est Pascal, magnifique. Mot. Le silence éternel de ces espaces infinis m'effraie. Alors, encore une anecdote, que serait la vie sans anecdote, J'ai vu quelqu'un très très intelligent qui avait écrit dans les toilettes publiques, je vous jure, la réciproque, mais qui est tout aussi vrai. C'est-à-dire, c'était le bruit intermittent de ces espaces confinés me rassure. Il n'avait même pas mis de rapport à Pascal. Extraordinaire. Vous voyez, comme il y a des gens extrêmement intelligents qui font de l'humour et qui sont prêts à ne pas être compris lors de l'humour. En tout cas, le silence, oui, le silence éternel, mais ce silence-là dont parle Pascal, le problème, c'est qu'il n'a même rien à voir avec ce qu'on désigne ordinairement par là. C'est pas le silence bienheureux qui s'empare de nous quand on pénètre dans un lieu calme, retiré de l'agitation du monde. Ce silence-là, le silence de la science, c'est un silence inaudible, parce qu'il est émis dans un univers où aucun son n'est possible. Le silence éternel est effrayant parce qu'il est inhumain. Et dans un sens, l'univers réel de la modernité est aussi étranger à l'effroi qu'au son. Si encore le silence éternel était en soi effroyable, oui, mais c'est un silence que si je suis capable de le percevoir comme si. Donc, si nous allons un peu plus loin, nous arrivons à présent à un constat. Un corps réduit à ce qu'il doit au monde extérieur, un corps étendu, ne possède en tant que tel aucune qualité sensible. Donc tout corps senti présuppose un autre corps qui le sent. Donc on est renvoyé d'un corps sensible dans le monde à un corps d'un tout autre ordre. Un corps sentant et non plus senti, donnant et non plus donné. Un corps qui donne le monde, l'ensemble des corps sentis en lui, un corps propre, un corps sujet, opposé au corps objet, qu'il fait apparaître dans son champ de perception. Le corps propre, c'est ainsi le corps originaire, le corps fondateur, mon corps propre. Le corps propre, c'est donc ce qui se comprend, non pas à partir du monde de la science, mais à partir de la vie. Exemple, la souffrance. Je me fais mal au pied. En tant que sentiment, c'est pas un mouvement moléculaire. Si je réduis la souffrance à un truc biologique, je ne comprends rien de la souffrance. Ou la souffrance du deuil, c'est pas un mouvement moléculaire, la souffrance d'un deuil. Voyez que cette dimension-là présente une dimension éthique forte. Parce que seul un être vivant est capable de morale. Pourquoi ? Parce qu'il est le seul à être capable de pâtir, de sentir. Et un objet, sauf erreur, n'est pas capable de morale. C'est aussi bien, alors, le monisme matérialiste, c'est-à-dire la perspective scientifique, mais aussi bien celle-ci que le dualisme qui disparaissent. Pourquoi ? Parce que la sensibilité, l'auto-affection, le fait de me sentir moi-même, c'est extraordinaire. Vous voyez la différence entre un corps, celui ne se sent pas lui-même. Moi, je me sens. Je suis capable de ressentir, d'être ouvert sur le monde et de me sentir moi-même. Bon. Donc, là, cette auto-affection, cette vie, ne s'ajoute pas au corps, comme à l'attribut en plus. C'est le corps qui devient sentant. Vous voyez que Descartes, sur ce point, pouvait être en tort. C'est pas un dualisme, c'est le fait qu'il y a là un corps vivant, et que la vie ne peut pas être réduite, justement, à des mouvements moléculaires. Donc l'homme concret, réel, ignore le dualisme. Le soi pense là où il agit, là où il désire, là où il souffre. Donc, par exemple, la naissance, naître, ce n'est pas venir dans un monde comme un corps-objet. Non. Sinon, il n'y aurait aucun individu vivant. À quel moment l'individu devient-il vivant ? C'est son corps qui est vivant, qui est amené à la vie. Ouais. L'individu est avant tout une pensée lui-même, mais il est d'abord, surtout, un vivant capable de se penser. Alors, bon, il faut que j'accélère absolument parce que la plus belle partie est censée être maintenant. Donc il semble possible, du coup, de décrire l'expérience du corps propre pour faire bien plus apparaître son irréductibilité au corps-objet, son caractère spécifique. On va s'amuser à décrire notre corps. On va s'amuser à décrire ce corps qui se tient là devant vous. Là, on va s'attaquer à Merleau-Ponty. Merleau-Ponty montre que la psychologie classique, déjà, croyait décrire un corps-objet, un corps purement réductible, mais elle lui attribuait sans le savoir des caractéristiques qui étaient incompatibles. Mon corps se distingue de la table ou du micro parce qu'il est constamment perçu par moi. Je me perçois constamment, tandis que je peux me détourner du micro ou de la table. Bon, je n'ai pas besoin de le faire, vous en doutez. Mais voilà, mon corps ne me quitte pas, c'est un objet qui ne me quitte pas. Mais si c'est un objet qui ne me quitte pas, est-ce encore un objet ? Citation 12. L'objet ne peut être considéré comme tel que s'il peut être éloigné et donc disparaître de mon champ visuel. Sa présence va de pair avec une absence possible. Or, la permanence du corps propre est d'un tout autre genre. Il n'est pas, à la limite, Il n'est pas à la limite d'une exploration indéfinie, il se refuse à l'exploration et se présente toujours à moi sous le même angle. Dire qu'il est toujours près de moi, toujours là pour moi, c'est dire que jamais il n'est vraiment devant moi, que je ne peux pas le déployer sous mon regard, qu'il demeure en marge de toutes mes perceptions, qu'il est avec moi. Alors, une remarque de Merleau-Ponty nous dit « Si je ne quittais pas mon vêtement, je n'emmercerais jamais l'envers. » Mais le corps, pour autant, n'est pas comparable à un vêtement qu'on ne lèverait jamais. Il n'est pas un simple outil indispensable, il est, finalement, les actions dans lesquelles je m'engage par habitude. Il est l'ensemble des habitudes. Le corps propre, c'est l'habitude primordiale, celle qui conditionne toutes les autres, et par laquelle elles se comprennent. Donc sa présence près de moi, à mon corps, n'est pas une simple nécessité de fait, parce qu'elle est à l'origine de tous les faits observables. Pour que ma fenêtre m'impose un point de vue sur la rue, il faut d'abord que mon corps m'en impose une sur le monde. En d'autres termes, j'observe les objets extérieurs avec mon corps, je les manie, j'en fais le tour, mais quant à mon corps, je ne l'observe pas lui-même. Il me faudrait, pour le faire, un second corps qui ne serait pas observable. Ma tête donnée à ma vue, ma tête, elle est donnée que par un bout de mon nez. J'ai un grand nez, donc je le vois à peu près quand je louche. Ou alors, par le contour de mes orbites. Il me semble que j'arrive à les voir quand je me concentre. Et quand je veux combler ce vide en m'observant en miroir, l'image me renvoie encore un original du corps qui n'est pas là-bas parmi les choses, mais qui est de mon côté, qui est en deçà de toute vision. Et il en va de même pour mon corps en tant qu'il est tactile. Très belle citation, citation 13. Si je peux palper ma main, alors faites-le. Enfin, vous n'êtes pas obligé, hein, si vous voulez. Mais palpez votre main, faisons l'expérience de Merleau-Ponty. Si je veux palper ma main, palper avec ma main gauche, ma main droite, et bon, là je me suis planté, voilà, pendant qu'elle touche un objet, la main droite n'est pas la main droite touchante. La première est un entrelacement d'eau, de muscles ou de chair écrasé en un point de l'espace. La seconde traverse l'espace comme une fusée pour aller chercher l'objet extérieur ou son lieu. En tant qu'il voit ou touche le monde, mon corps ne peut donc jamais être vu ni touché, ce qui l'empêche d'être jamais un objet, d'être jamais complètement constitué. C'est qu'il est ce par quoi il y a des objets. Ainsi, non seulement la permanence de mon corps n'est pas un cas particulier de la permanence des objets autour de moi, mais c'est la permanence des objets qui ne peut se comprendre qu'à travers celle de mon corps. Alors, on peut approfondir un texte que j'ai juste oublié de vous mettre, et c'est dommage. On continue le problème du corps touchant. Citation. Jamais les deux mains ne sont en même temps l'une à l'égard de l'autre, touchées et touchantes. Quand je presse mes deux mains l'une contre l'autre, il ne s'agit pas de deux sensations que j'éprouverai ensemble, quand on perçoit deux objets juxtaposés, mais d'une organisation ambiguë où les deux mains peuvent alterner dans la fonction de touchante et de toucher. Le corps essaye de se toucher touchant. Il ébauche une sorte de réflexion, et cela suffirait pour le distinguer des objets dont je peux bien dire qu'il touche mon corps, mais seulement quand il est inerte, et donc sans jamais qu'il le surprenne dans sa fonction exploratrice. Mon corps est explorateur. Il peut se toucher. Hein, voyez, c'est vrai, des fois c'est ma main gauche, non, c'est la droite qui touche la main gauche, des fois c'est la main l'autre qui est touchée par la première, etc. Mais on alterne, mais jamais mon corps n'est vraiment un corps-objet. On reconnaît donc que mon corps ne s'offre pas à la manière des objets du sens externe, mais qu'il se profile sur un fond affectif. Si mon pied droit me fait mal, je ne veux pas dire qu'il est une cause de douleur au même titre que le clou qui déchire, je veux dire que la douleur indique son lieu, qu'elle est constitutive d'un espace douloureux en moi. Ainsi, mon corps propre n'est pas seulement un espace parmi les choses, il est à l'origine de tous les espaces expressifs. Il est le mouvement même d'expression. Il est ce qui projette au dehors les significations en leur donnant un lieu. Le corps est notre moyen général d'avoir un monde. Les différentes parties de mon corps, ses aspects visuels, tactiles, moteurs, ne sont pas seulement coordonnés. Si là, par exemple, j'ai plein de façons de me pencher vers ce bouquin, je peux tendre le bras et l'amener vers moi, je peux pencher mon corps et m'amener vers lui quand je suis où je le fais, je peux me lever, etc. Je peux le faire. Mais mon corps s'organise de lui-même. Je ne vais pas penser, tiens, il faut que je mette face un angle avec mon bras pour pouvoir... Non, tout ça se fait spontanément. Mon corps donne du sens, m'ouvre au monde. Donc, je ne suis pas devant mon corps, je ne suis pas dans mon corps, je suis mon corps, puisque c'est lui qui me donne un monde. Voilà, je vais en venir. Donc en résumé, chez Merleau-Ponty, le corps devient un espace expressif. Il est ce qui projette au-dehors les significations des choses en leur donnant un lieu, et ce qui fait qu'elles se mettent à exister comme des choses, sous nos mains et sous nos yeux. Donc c'est notre corps qui fait vivre un monde, ou plutôt, c'est notre moyen général d'avoir un monde. Le corps a cette propriété particulière et unique d'être un touchant touché, ou d'être un voyant vu. Il n'y a plus de limite tranchée entre le corps et le monde, et il ne peut ni être réduit à une idée intellectuelle, ni être considéré comme une chose parmi les choses. Le corps et le monde s'entrelacent dans la sensation, et ils se croisent d'une telle façon qu'on ne peut pas dire que le corps est dans le monde et la vision dans le corps. Il constitue un seul tissu, la chair, dont le corps sentant et le corps senti sont comme l'envers et l'endroit. Voilà ce que dit, en quelque sorte, Merleau-Ponty. Je déborde un tout petit peu et je vais essayer de finir très rapidement sur, maintenant, une analyse, à la manière de Merleau-Ponty, des sentiments, puisque c'est quand même là où je voulais arriver, et aussi de la sexualité, puisque c'est rigolo de terminer là-dessus. Le corps comme être sexué. Voilà un petit peu ce qu'on va aussi comprendre, et qui va nous montrer à quel point nous sommes loin du corps objet proposé par la science. Pour Merleau-Ponty, on peut reconnaître que les sentiments profonds, comme la pudeur, le désir, l'amour en général, ont une signification presque métaphysique. Ils sont absolument incompréhensibles si on traite l'homme comme une machine gouvernée par des lois naturelles ou comme un système d'instincts coordonnés. L'homme ne montre pas son corps d'une façon ordinaire ou quelconque. Quand il le fait, c'est tantôt avec crainte, tantôt dans l'intention de fasciner. Citation 14. La pudeur et l'impudeur tiennent place dans une dialectique du moi et d'autrui, qui est celle du maître et de l'esclave. En tant que j'ai un corps, je peux être réduit en objet sous le regard d'autrui, et ne plus compter pour lui comme personne, ou bien au contraire, je peux devenir son maître et le regarder à mon tour, le jauger. L'équivoque est essentiel à l'existence humaine, et tout ce que nous vivons ou pensons a toujours plusieurs sens. Je ne suis pas un corps parmi les autres, je ne suis pas un esprit dans un corps, je suis un être incarné. Il suffirait que je me mette nu devant vous pour vous le prouver. Je ne vais pas le faire, sur le coup. Mais pourquoi je ne vais pas le faire? Parce qu'évidemment, je suis public. Pourquoi suis-je public? Parce que je suis un corps vivant, ressentant, éprouvant, qui a peur du regard d'autrui. Et pourquoi je ne vais pas le faire? Parce que j'ai peur aussi de vous, vous mettre mal à l'aise, etc. Bon, en plus, ça n'aurait aucun sens. Mais je veux dire, voilà, l'idée est la suivante. Je ne suis pas un corps, simplement. Je suis mon corps. Et mon corps, je ne peux pas d'un seul coup l'offrir à un public aussi sympathique que vous êtes, mais comme ça. Pas plus que je l'exige de vous, etc. Et la réciproque. Alors, ça serait vraiment un joyeux bordel. Donc, je ne suis pas un corps parmi les autres. Allez, citation 15, parce que sinon, on n'aura pas le temps de dire ces extraordinaires citations. Donc, Merleau-Ponty, phénoménologie de la perception, c'est-à-dire au moins une fois dans sa vie. Et même, peut-être, pourquoi pas dans la scène. Au moins la partie sur le corps, la première partie. Vous pouvez sauter l'introduction qui est un peu longue. L'existence n'a pas d'attribut fortuit, pas de contenu qui ne contribue à lui donner sa forme. Elle n'admet pas en elle-même de pur fait parce qu'elle est le mouvement par lequel les faits sont assumés. On peut concevoir un homme sans main, pied, tête, et à plus forte raison un homme sans sexe et qui ne se reproduirait que par bouture ou marcotage. C'est que des termes, bien sûr, tirés, vous savez, des plantes comme ça. Par bouture, si on prend les racines, bref, c'est rien. Et voilà, le marcotage, je crois, ce que j'ai écrit quand même, c'est que, voilà, on prend une tige et puis on la met à côté et puis après on la sépare de... C'est ça. Mais cela n'est vrai que si l'on considère les mains, les pieds, la tête ou l'appareil sexuel abstraitement. C'est-à-dire comme des fragments de matière, non pas dans leur fonction vivante. Si au contraire on définit l'homme par son expérience, c'est-à-dire par sa manière propre de mettre en forme le monde, et si l'on réintègre les organes à tout ce fonctionnement dans lequel ils sont découpés, un homme sans main ou sans système sexuel est aussi inconcevable qu'un homme sans pensée. Il y a donc un éros ou une libido qui anime mon monde original, qui donne de la valeur ou une signification sexuelle aux stimuli extérieurs. Le corps n'est pas seulement perçu comme un objet quelconque. Toute perception objective est habitée par une perception plus secrète. Le corps visible offre une dimension érotique, charnelle, qui dessine parfois une physionomie sexuelle et appelle certains gestes ou certains comportements. C'est parfois, simplement, voilà, une posture de ma femme qui éveille un émoi chez moi. Bon. Ça peut être, etc. Ça, c'est pas simplement une biochimie cérébrale qui en tiendra compte, j'espère. C'est cette façon que j'ai de la saisir dans un tas de saisir ce moment, pardon. Dans un moment comme ça de rêverie, où d'un seul coup je vois cette image qui, d'un seul coup, me plaît, me séduit. Et ce moment-là unique, c'est moi qui l'interprète, c'est mon corps qui y réagit. Et c'est tout aussi bien la pensée incarnée. Donc il n'y a pas au fond, en croire Merleau-Ponty, et on terminera sur cette citation, de comportement strictement sexuel, mais une symbolisation permanente qui donne du sens à ce qui m'entoure, à ce que je vis. Citation la dernière. Bon, et une minute de conclusion. Une jeune fille à qui sa mère a interdit de revoir le jeune homme qu'elle aime perd le sommeil, l'appétit et finalement l'usage de la parole. Au cours de l'enfance, on trouve déjà une première manifestation d'aphonie à la suite d'un tremblement de terre, puis un retour à l'aphonie à la suite d'une peur violente. Une interprétation strictement freudienne mettrait en cause la phase orale du développement de la sexualité. Mais ce qui est fixé sur la bouche, ce n'est pas seulement l'existence sexuelle, ce sont plus généralement les relations avec autrui, dont la parole est le véhicule. La malade rompt avec la vie de relations dans le milieu familial. Plus généralement, elle tend à rompre avec la vie. Si elle ne peut plus déglutir les aliments, c'est que la déglutition symbolise le mouvement d'existence qui se laisse traverser par les événements et les assimile. La malade, à la lettre, ne peut pas avaler l'interdiction qui lui est faite. C'est bon. C'est pas de moi, c'est pour ça que je me permets de le dire. Conclusion, un mot de conclusion, et je n'aurais pas dépassé le fameux quart d'heure maximal de débordement. En tant que j'ai un corps, je garde à chaque instant le pouvoir de me dérober au monde. À l'instant où je suis avec Roger, à mes amis, à mes souvenirs, ou même devant vous, je peux me détourner et fermer les yeux pour nier ce qui se passe autour de moi. Je peux être attentif aux pulsations de mon cœur. Je peux me fondre dans un plaisir ou dans une angoisse. Mais justement, parce qu'il peut se fermer au monde, mon corps est aussi ce qui m'ouvre au monde et m'y met en situation. Quoi que je fasse ou que je vive, je ne deviens jamais une chose dans le monde, tout comme je ne suis pas simplement un esprit dans un corps. Je suis un corps vivant, sentant, éprouvant, et à ce titre, irréductible. Merci de votre attention.